pour ceux qui ne sont jamais venus au Dorothy, très rapidement, le Dorothy, c'est un chrétien qui a été créé il y a 5 ans. Il y a ce mois-ci, on fait exactement 5 ans. Donc on est très heureux de recevoir Michael Lowy pendant cette date symbolique. Pour nous parler de théologie de la libération, ou plutôt de christianisme de la libération, c'est le terme que vous préférez. Et ça nous tient à cœur, puisque la théologie de la libération, comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, travaille deux courants de pensée qu'on oppose souvent. D'un côté, le christianisme, la pensée chrétienne, la spiritualité chrétienne, et d'autre part, la philosophie, disons, la théorie marxiste. En disant que, bien entendu, il y a des différences entre les deux, etc., mais en réalité, il est tout à fait logique et intuitif, en tout cas, et pertinent de les penser ensemble. Et bien sûr, ça nous parle beaucoup au Dorothy, puisque, comme vous le savez, notre nom vient de Dorothy Day, une catholique américaine convertie, qui était auparavant journaliste, et qui a créé les Catholic Workers, avec également cette idée de, dans un même mouvement, de vivre la parole de l'Évangile, et un engagement, disons, social radical. Voilà, donc ce soir, ici au Dorothy, on a déjà eu l'occasion à diverses reprises de parler de théologie de la libération. Une des dernières fois, c'était pour parler d'un livre de Timothée qui est sorti cette année. Je fais un petit peu de pub parce que c'est un très bon livre. Mais ce soir, on a choisi un angle un tout petit peu plus singulier. C'est un mouvement qui date d'une dizaine d'années, qui est encore en cours, vraiment de rencontres et de dialogues entre ces deux courants. Et je laisse Timothée vous en parler plus précisément.
Absolument. Et pour présenter rapidement Michael Lowy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, vous êtes donc philosophe franco-brésilien, philosophe et sociologue franco-brésilien. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez énormément écrit sur la pensée marxiste et avec, me semble-t-il, une certaine appétence pour des figures marxistes hétérodoxes, c'est-à-dire qui sortent un peu des sentiers battus, comme Walter Benjamin, par exemple. Vous avez aussi écrit sur l'écosocialisme assez tôt, avant qu'on en parle autant qu'aujourd'hui. Et également sur le romantisme révolutionnaire, qui rassemble un petit peu des courants de pensée qui vont à la fois piocher des choses dans le passé, dans les sociétés pré-capitalistes, par exemple les sociétés traditionnelles en Amérique latine ou les sociétés paysannes, mais qui ne fantasment pas un âge d'or un petit peu refermé sur lui-même, et qui se situe plutôt dans une perspective utopiste, donc projeté vers le futur. Pendant toutes ces recherches, croisé à plusieurs reprises le chemin de courants chrétiens un petit peu hétérodoxes aussi, on pourrait dire. Une figure, en tout cas, enfin, vous avez été partie prenante d'un dialogue entre chrétiens et marxistes, et donc c'est pour ça qu'on vous invite ce soir, parce que comme le disait Marie-Nil, ça fait cette année 10 ans qu'il y a un processus inédit qui se déroule, donc qui a été à l'initiative du pape François en 2013, et qui fait dialoguer en Europe des courants de la gauche marxiste et des chrétiens, ou plutôt des catholiques. Et donc ce dialogue est inédit et dissonant avec le siècle précédent, durant lequel on a vu les marxistes très souvent résumer la religion à une interprétation un peu hâtive de la formule sur l'opium du peuple de Marx, et à l'inverse, on a vu surtout l'Église catholique essentialiser, condamner le marxisme comme un courant forcément athée et matérialiste. Et donc aujourd'hui, ce dialogue nouveau ouvre des perspectives assez intéressantes, enfin en tout cas nous qui nous intéressent beaucoup au Dorothy, et je pense que ceux qui sont venus ce soir ils sont aussi intéressés. Et donc la première question qu'on voulait vous poser, c'est c'est sur la genèse, en fait, finalement, les enjeux de ce dialogue donc, qu'on appelle DIALOP, D-I-A-L-O-P. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle intuition, de quelle rencontre naît ce processus ?
Bien. Alors, effectivement, ça fait 10 ans que un processus de dialogue a été mis sur place. Il est né d'une rencontre assez inédite entre le pape François Bergoglio et une délégation de la gauche européenne. D'un côté, Alexis Tsipras, qui était à l'époque le candidat de la gauche pour la présidence de l'Europe, et l'autre, Walter Bayer, qui était un marxiste autrichien, qui était le coordinateur d'un réseau qui s'appelle Transform. C'est un réseau des centres de recherche marxistes en Europe. Il y en a dans chaque pays. Le plus connu, c'est la Fondation Rosa Luxembourg en Allemagne, mais il y en a des équivalents dans la plupart des pays d'Europe, hein, qui sont liés au parti de la gauche européenne, hein, mais bon, comme centre de recherche, de réflexion, ils ont une certaine autonomie. Bien. Donc, de cette réunion est partie l'idée de, disons, commencer un processus de dialogue. Pas simplement, il y a eu des expériences de dialogue local, etc. etc. Mais là, c'était vraiment une rencontre au sommet, on peut dire, hein, entre le Vatican et la gauche marxiste européenne. Bien. Et pour mener à bien ce dialogue, bon, le pape a délégué dans la tâche d'organiser le dialogue du côté catholique à une... comment on appelle ça, un mouvement catholique qui s'appelle Focolare, hein, qui a son siège en Italie, mais qui a des branches un peu partout, et qui est un mouvement, bon, je ne peux pas le décrire, mais qui a des coopératives, des universités, des centres de recherche, enfin, différentes activités. Bien. Donc, bon, voilà, ce dialogue a donc commencé à partir de 2014, avec deux rencontres bilatérales dans divers lieux, notamment dans l'université, le centre universitaire Sofia, qui est près de Florence, qui est lié au mouvement Focolare. Et puis, il y a eu différentes expériences de dialogue, et une des plus intéressantes était, je pense, il y a 4 ou 5 ans, c'était une université d'été commune. Qui a eu lieu dans l'île de Syros en Grèce, hein, où il y avait des enseignants du côté marxiste, des enseignants du côté catholique et des étudiants aussi des deux côtés. Hein. Alors j'ai participé à cette expérience, mon épouse qui est ici aussi. Bien. Et ça a été vraiment quelque chose de très, très étonnant, très sympathique, pas sans désaccord, bon, mais. On ne cherchait pas les conflits, on cherchait les dialogues, souvent la convergence. Donc, et les étudiants aussi, ils ont suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Donc c'était une belle expérience. Dans l'île des Syros en Grèce, qui est une île où la majorité de la population n'est pas orthodoxe chrétienne, mais catholique. C'est une particularité. Bien, donc il y a eu cette expérience de l'université d'été. Et puis... une série d'autres initiatives, dont peut-être la plus importante était il y a un an et demi ou deux ans, c'était la rédaction d'une déclaration commune, statement, hein, une déclaration commune. Alors, du côté marxiste, on a délégué ça à un marxiste allemand, Michel Brie, et du côté de catholique, Focolare, il y avait un professeur de l'université de Sofia, un sociologue qui s'appelle Caillebot. Bien, donc les deux ont travaillé, préparé un premier projet qui était soumis à discussion. On a proposé des amendements, moi aussi j'ai proposé quelques amendements, pas tous ont été acceptés, mais enfin, bref, on a réussi à avoir ce texte commun. Bon, je ne vais pas vous lire tous les textes parce que c'est trop long, mais juste un passage hein, pour que vous ayez une idée. Hein. Les changements commencent en disant non. Je traduis de l'anglais. Hein. Ensemble, marxistes et chrétiens, nous disons non à l'exploitation et la destruction de notre héritage commun le plus important, la nature, la terre. Nous disons non à une économie qui tue, à une politique qui crée la haine, à une culture qui transforme les êtres humains en consommateurs égoïstes et détruit l'héritage culturel de l'humanité, à un mode de vie impérial, au racisme et au patriarcalisme, et à une politique internationale qui conduit à une nouvelle guerre froide, au terrorisme, aux guerres régionales et aux guerres civiles, etc. etc. Ça, je vais lire tous les documents. Et ça a été signé par, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de personnes, certaines connues, d'autres non, moitié côté catholique, moitié côté marxiste. Bon. Parmi lesquels plusieurs députés européens, hein, députés de la gauche européenne, notamment des députés du bloc de gauche du Portugal. Le bloc de gauche du Portugal est un parti qui s'est construit en dehors du Parti communiste portugais, qui ne participe pas à ça, et qui est, disons, d'une orientation marxiste, mais pas celle du Parti communiste. Bien. Et l'actuel coordinateur du processus de dialogue du côté marxiste, c'est un ancien député, ancien président du Parlement portugais, si je ne me trompe pas, qui s'appelle José Maria Pulez, qui s'est dit lui-même marxiste chrétien. Bon, donc le dialogue passe, y compris par lui. Bon. Voilà, donc c'est ça. Hein. D'ailleurs, il y a les documents. A été présenté ensemble par les chrétiens et les marxistes au Parlement européen. Bien. Bon, le document, évidemment, c'était un compromis. Bon, chacun a présenté. Mais, disons, l'essentiel, c'est quand même les convergences, les choses qui sont communes. Bon, moi, je n'étais pas content avec un paragraphe du document, mais bon, je n'ai pas réussi à le faire changer.
Vous pouvez nous dire peut-être lequel c'était ?
Je vais dire. C'était un paragraphe qui disait le président de la commission pontificale pour l'économie, un grand économiste chrétien qui s'appelle Zamani, a dit, citation, il ne s'agit pas, notre objectif, ce n'est pas de détruire le capitalisme, mais de l'échanger de l'intérieur. Il est resté au travers de la gorge, mais ce n'est pas les documents qui le disent. Il cite M. Zamal, c'est son opinion. Bon, ça m'a pu s'en passer. Mais enfin, ça montre que on n'est pas toujours d'accord sur tout, la discussion. Les dialogues, c'est pour ça. Hein. Les dialogues, c'est pour, disons, chercher des convergences et discuter. Là, on n'est pas d'accord, on discute, etc. Bien. Évidemment, il y a des points de friction. Non, la question du rôle des femmes. La question de l'avortement, évidemment, etc. Bon, je ne vais pas faire la liste des accords, ils existent, mais ça n'a pas empêché le dialogue de suivre son cours et à la satisfaction de deux côtés. Hein. Les deux côtés ont trouvé que c'était tout à fait intéressant et que c'était un dialogue où on apprenait à se connaître. Un dialogue où on trouvait, et ça c'est aussi c'était une découverte, qu'on avait beaucoup plus en commun que ce qu'on croyait. Et évidemment, tout ça n'a pas été possible s'il n'avait pas le pape François, hein, et notamment ses encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti, qui ont été reçus avec beaucoup d'intérêt, non seulement par les chrétiens, mais par les marxistes aussi, hein, notamment le marxiste intéressé par l'écologie, par exemple, etc. Bien. Donc voilà un peu le contexte général, disons, de ce dialogue. Voilà.
Alors, merci beaucoup. Peut-être dans votre ouvrage La lutte des dieux, assez classique, qui parle justement du christianisme, de la libération en Amérique du Sud, etc., vous insistez sur le fait que c'est d'abord un mouvement social, une dynamique, disons, populaire, enfin, qui a précédé quelque part le mouvement de pensée et la formalisation théologique de ce qui se passait.
Oui.
Là, dans ce que vous décrivez, c'est plutôt une dynamique intellectuelle, voire un peu institutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'elle a les moyens d'infuser voilà, dans la vie sociale?
Oui.
Et par quel biais? Ou alors est-ce que c'est voué à être quelque chose d'assez minoritaire?
Mm-hmm.
Enfin, voilà, comment vous voyez cette
oui.
dynamique entre la théorie, ce désir de dialogue, et puis les mouvements sociaux
oui.
existants actuellement en Europe, puisque on l'a peut-être pas assez précisé, mais c'était un dialogue surtout européen.
C'est
ça.
C'est un dialogue européen, pour le moment européen. Bien. Effectivement, la dynamique en Amérique latine était très différente. En Amérique latine, ça n'a pas pris la forme d'un dialogue, mais ça a pris la forme de chrétiens qui s'approprient d'une série d'instruments du marxisme et développent une nouvelle culture chrétienne. Et surtout qui développe un mouvement social où participent des mouvements de jeunesse chrétienne, des communautés chrétiennes ecclésiales de base, des pastorales populaires, etc., où participent des gens de l'Église, des laïcs, et qui participent à des mouvements sociaux de lutte, de grève, des occupations, etc. Bon, donc c'est à partir de l'expérience de ces mouvements qui a traversé l'Amérique latine depuis les débuts des années 60, qui a donné aussi ses martyrs, comme Camilo Torres, qui est mort combattant dans les montagnes en Colombie. Bon, c'est à partir de ça qu'apparaît un peu plus tard la théologie de la libération, à partir des années 60. Donc c'était une dynamique qui venait d'en bas, de la base de l'Église, du mouvement social, pour ensuite se traduire au niveau de la théologie. Et au niveau pratique, on a vu des mouvements sociaux, des mouvements syndicaux, des mouvements de paysans et même des partis politiques, comme le Parti Travailleur au Brésil ou le Front Sandiniste des années 70, etc., où le chrétien et le marxiste étaient ensemble, pas organisés en blocs séparés, mais étaient ensemble. Donc il y avait une dynamique sociopolitique commune. Bon, effectivement, en Europe, la situation est très différente. C'est pas le même contexte social, c'est pas le même contexte économique ni politique. On est dans une autre configuration. Et effectivement, l'initiative est venue un peu d'en haut, hein, effectivement, des dirigeants du parti ou du centre de culturel marxiste et du Vatican, hein, la tête du Vatican. Et pour le moment, disons, c'est effectivement un dialogue culturel, intellectuel, moral. Hein, il y a une préoccupation très grande d'une réflexion éthique commune, on parle d'éthique transversale. Mais bon, ça n'a pas vocation à se traduire dans un mouvement syndical ou paysan ou que sais-je, un parti politique où tout le monde sert ensemble, ça n'a pas la même configuration. Maintenant, est-ce que ça pourrait se traduire dans des actions pratiques communes? Je l'espère. Hein. À tel ou tel moment, je vais proposer, bon, pour le moment, ça n'a pas encore eu lieu, mais je pense que sur une série de questions, il y a assez en commun pour qu'il y ait des actions communes. Par exemple, sur l'écologie. Si on parle de ce qui est écrit dans Laudato Si et ce que pensent les écologistes marxistes, disons, ben, il y a lieu de faire des choses ensemble, hein, de prendre des initiatives ensemble. La question des réfugiés, hein, si on prend ce qu'il dit le pape et ce qu'ils disent la gauche marxiste en Europe, il y a beaucoup en commun. On pourrait imaginer des actions communes. Mais pour le moment, on n'en est pas là.
Et
Et donc effectivement, le contexte européen est très différent du contexte latino-américain où il y a pu avoir ces actions communes vraiment par le bas, comme vous le disiez. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce qui a fait justement, particulièrement en Europe, mais de manière générale, ce qui fait qu'il y a une divergence fondamentale entre christianisme et marxisme historiquement?
Disons, depuis le 19e siècle, le marxisme, le parti socialiste, le mouvement syndical, etc., voyait l'Église comme une force conservatrice, hein, même pas une force bourgeoise, une force liée à un passé féodal. Hein, vous avez cette image de l'Église. Et du côté de l'Église, une attitude aussi très négative envers le socialisme, n'en parlons pas du marxisme, enfin toute forme de socialisme, considérée comme quelque chose de athée et donc ennemi de l'Église, etc. Donc il y avait une hostilité mutuelle. Sauf quelques individus qui, d'un côté et de l'autre, pensaient d'une façon plus ouverte, disons. Alors il y a des figures de personnes de l'Église, je pense qu'il y a un archevêque allemand, Ketteler, qui a eu une attitude plus ouverte envers le socialisme. Et parmi les socialistes, même les marxistes, il s'est trouvé des gens qui avaient aussi une attitude plus ouverte. Je cite toujours Rosa Luxembourg, qui n'était même pas d'origine chrétienne, était d'origine juive, mais qui était athée militante. Mais elle a écrit un petit essai qui s'appelle Église et socialisme, où elle dit: nous, les socialistes, sommes les héritiers des enseignements de l'Évangile des pères de l'Église, et c'est les Églises actuelles qui ont trahi cet enseignement chrétien des origines. Bon, une façon de poser le problème. Karl Kautz, qui est l'autre marxiste de la Deuxième Internationale, aussi a écrit un livre sur les origines du christianisme, qui est un peu mécanique, mais enfin il présente le Christ sous une lumière très favorable, comme un prophète prolétarien qui a été crucifié. Bien. Donc il y avait certaines ouvertures d'un côté comme de l'autre. Il y a eu quelques personnages qui ont fait le chemin dans un sens ou dans l'autre, des chrétiens protestants. Je me rappelle un exemple protestant, Jules Humbert Droz, qui était un pasteur protestant qui est devenu dirigeant communiste en Suisse. Il y a eu des marxistes qui sont convertis au catholicisme, surtout je connais un exemple américain, mais il y en a eu certainement en Europe aussi, etc. Mais enfin, ça restait deux blocs opposés et souvent hostiles. Cette hostilité, il y avait une référence, disons, textuelle qui créait une barrière, évidemment, qui était le texte de Marx: la religion, c'est l'opium du peuple. Il faut rappeler que ce texte a écrit à une époque où Marx n'était pas marxiste. Il était un jeune hegélien de gauche. Et donc, ce n'est que plus tard que Marx, mais surtout Engels, vont essayer d'analyser la religion, pas comme une essence intemporelle, mais comme un phénomène social qui est en rapport avec la lutte des classes. Donc Engels disait, il y a le christianisme des paysans, et parlant de la guerre des paysans du XVIe siècle, il y a le christianisme des paysans qui était révolutionnaire, il y a le christianisme des bourgeois qui était pas pour une réforme simplement, et il y avait le christianisme rétrograde de l'aristocratie, etc. Bon, on peut dire, c'est un peu schématique, mais enfin, il y avait une tentative de ne pas avoir la religion comme une essence abstraite de aliénation, etc. Mais enfin, c'est quand même, il y avait une hostilité. En France, c'est évident. Les cas les plus violents, c'était l'affaire Dreyfus, où malheureusement, avec quelques exceptions, l'Église était du côté antisémite, pour le dire, et tandis que pas toute la gauche, mais une bonne partie de la gauche socialiste était pour Dreyfus. Bien, ça commence à changer au cours des années 20-30, quand apparaît un courant chrétien de gauche autour de, comment il s'appelle, Esprit,
Emmanuel Mounier.
Emmanuel Mounier, bon, le Père Lébrun, etc. Donc, commence à avoir implicitement, ou parfois même explicitement, une sorte de dialogue entre chrétiens et marxistes en France. Mais bon, ce qui a aggravé le conflit, c'est d'une part l'attitude de régime se réclamant du marxisme, qui, notamment à partir de la fin des années 20 et des années 30, avait une attitude d'imposition de l'athéisme comme dogme d'État et la persécution des chrétiens, etc. Bon. Donc ça a évidemment aggravé le contentieux. La réponse de l'Église d'excommunier les communistes, évidemment, n'a pas contribué. Bon, donc il y a toute un historique de conflit qui a duré tout le XXe siècle, pratiquement, sous des formes diverses, etc. Bon, ce qui a créé les conditions pour le dialogue aujourd'hui, c'est que la plupart des marxistes européens se sont distanciés du modèle soviétique, stalinien, disons, de socialisme. C'est qu'évidemment, il y a toujours eu des marxistes qui étaient critiques de ces modèles. Mais enfin, les gros de la gauche marxiste organisée, du mouvement communiste, s'identifiaient avec ces modèles. Bon, à partir des années 70, mais surtout à partir de la fin de l'Union soviétique, des années 90, bon, c'est la mouvance marxiste, communiste, européenne va prendre de plus en plus de distance envers ce modèle autoritaire, etc. Et du côté catholique, avec l'élection du pape François, évidemment, il y a un tournant très important. La théologie de la libération qui avait été décrétée hérétique par Jean-Paul II et Ratzinger est admise comme un courant légitime dans l'Église. Et le pape donc a pris l'initiative de ces dialogues. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des conditions qui n'ont pas existé dans le passé pour ces dialogues. Voilà. J'ai résumé une longue histoire, hein.
Oui.
Des siècles d'histoire, de conflits, Église, marxisme. C'est évidemment beaucoup plus complexe.
Et peut-être, si on pose une question maintenant plus personnelle, enfin en passant d'un niveau un peu historique à un niveau plus personnel, vous, comme marxiste, à quel moment vous avez rencontré la pensée ou la spiritualité chrétienne? Alors bien sûr, il y a la question du christianisme de la libération, mais vous, quelles sont les notions, les événements historiques qui vous ont saisi et qui ont peut-être aussi transformé votre pensée marxiste?
Bien. Alors, d'abord, je dois dire que j'étais disciple d'un marxiste juif qui avait la particularité curieuse que sa principale référence philosophique, pour ne pas dire théologique, était Blaise Pascal. C'était un Lucien Goldman, c'était une figure hétérodoxe dans le marxisme, c'était un marxiste pascalien. Et son argument était que le marxisme est comme la religion chrétienne fondée sur une foi et sur un pari, sauf que c'est une foi et un pari immanent et pas transcendant. Bon. Donc déjà dans ma formation avec Lucien Goldman, il y avait une certaine ouverture, disons, vers la religion chrétienne. Bon, par la suite, je suis entré dans le groupe de sociologie des religions au CNRS. Mais au début, je travaillais sur le judaïsme. C'était mon terrain, le messianisme juif en Europe centrale, etc. Mais à ce moment, pendant que je travaillais donc sur Walter Benjamin, etc., j'étais revenu au Brésil, pas pour habiter, mais comme en visiteur. Je suis d'origine brésilienne, mais bon, je suis venu en Europe, en France, en 1961. Je ne suis pas retourné au Brésil pour diverses raisons, entre lesquels le coup d'État militaire en 1964. Bien. Donc, à partir de 1980, je commence à revenir au Brésil tous les ans. Et je constate la présence massive de ce mouvement, que je vais appeler plus tard christianisme de la libération, dans la gauche brésilienne, hein, dans la formation du Parti des travailleurs, de la Centrale unique des travailleurs, dans la formation du mouvement des sans-terre, et dans les universités, dans les mouvements étudiants, partout, hein, une présence très importante de chrétiens qui, soit se réclament du marxisme, soit utilisent certaines idées du marxisme, qui ont un rapport très intense avec le marxisme. Donc je suis frappé par cette constatation et je commence à avoir l'idée que ça mérite une étude. Hein, ça mérite une étude sociologique, marxiste. Hein. Et j'ai commencé à faire un travail de terrain et à prendre contact avec des théologiens de la libération et des gens de communautés de base, de mouvements, etc. Et je dois dire que j'étais très impressionné par ces gens, hein, très impressionné par la qualité de leur engagement social, la qualité de leur attitude morale. Vraiment, ça m'a vraiment impressionné. Et je suis devenu ami de certains des principaux théologiens de l'aviation brésilienne, comme Leonardo Boff et Frei Beto. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes très amis, très proches. Je n'essaie pas de les convertir à l'athéisme, de temps en temps, ils essaient de me convertir.
On ne peut pas s'en empêcher.
Je leur réponds que, hélas, je n'ai pas reçu la grâce de la foi. Bon, c'est comme ça. Donc, mais on s'entend très bien. On s'entend très bien parce que je respecte beaucoup et j'admire beaucoup leur spiritualité, et leur réflexion théologique. Et je pense que là, c'est un apport très, très important pour, disons, pour le changement social en Amérique latine. Je pense que tous les grands mouvements de changement social et politique, ou presque tous, qui ont lieu en Amérique latine dans les dernières décennies, ont parmi une de leurs sources principales le christianisme et la libération. Alors donc, j'ai eu envie de travailler sur ça. Et à partir de mes conversations, du matériel que j'ai trouvé, de observations participantes, comme on dit, j'ai rédigé ce premier livre qui s'appelle La guerre des dieux, qui essaie de faire une synthèse, disons, sur qu'est-ce que c'est le christianisme de la libération, qu'est-ce que c'est la théologie de la libération, quel est son rapport avec le marxisme, etc.
Et peut-être pour une dernière question avant de laisser la parole à nos camarades qui ont sûrement plein d'autres questions. En termes de perspective, là, on est dans un contexte où les religions monothéistes, et singulièrement le christianisme en Europe, ont décliné, continuent de décliner, où le marxisme n'est plus forcément la matrice principale de la gauche qui, de toute façon, est assez affaiblie dans le paysage politique européen. Quelle perspective vous voyez pour qu'il y ait quand même un message commun qui soit porté par les chrétiens et les marxistes, et est-ce que justement est-ce qu'on peut avoir à la fois une approche par la base, comme ça a été le cas avec la théologie de la libération, comme c'est le cas dans certains mouvements sociaux, ou est-ce que, est-ce que c'est un dialogue
plus... Non, je pense pas qu'on peut copier les modèles latino-américains. Parce que d'abord, l'initiative n'est pas venue ni de l'Église, ni des partis politiques. C'est une toute autre initiative venue de jeunes étudiants et de leur, animateur dominicain. Au Brésil, ça a commencé comme ça. Et après, ça s'est tendu. Bon. Donc, en Amérique latine, c'est venu d'en bas, un peu de la périphérie de l'Église, du mouvement de l'action catholique, et après les pastorales populaires, après les ordres religieux, ce n'est que petit à petit c'est arrivé aux évêques, aux cardinaux. Mais c'est arrivé, c'est-à-dire une bonne partie, au Brésil en tout cas, des évêques et des cardinaux, surtout dans les années 70, mais même jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas marxistes, mais enfin, ils ont un engagement social assez avancé. Assez avancé. À certains moments, plus avancé que le Parti des Travailleurs, qui à l'origine était un parti socialiste, anticapitaliste. Bien. Il y aurait toute une conversation à avoir pourquoi l'Église catholique est hostile au capitalisme. Je laisse ça de côté pour le moment parce que c'est très intéressant. Bon, donc on ne peut pas copier le modèle. C'est pas copier. Le modèle latino-américain ne s'est pas appliqué en Europe. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse imaginer, que en même temps que se poursuit ce dialogue que je trouve très important et très précieux entre des intellectuels ou des dirigeants politiques aussi, pas simplement des dirigeants politiques, des dirigeants de l'Église, des cadres de l'Église, ce dialogue se poursuit. Bon, peut-être il y a, en ce moment, il y a une réunion de la jeunesse catholique à Lisbonne. Il y aura une délégation de marxistes européens qui va y aller pour la parole, pour le dialogue, etc. Donc, il y a des choses qui se passent, constamment. Maintenant, mon rêve, c'est qu'on puisse passer à une étape plus avancée qui serait des initiatives sociales ou sociopolitiques communes, comme j'ai dit, sur l'écologie, sur... la question des réfugiés, etc. Je ne sais pas, par exemple, en Allemagne, il y a quelques mois, les gouvernements allemands, qui est soi-disant de gauche, sociaux-démocrates et verts, a décidé que la meilleure façon de contribuer à, disons, écologiquement, c'est d'ouvrir une mine de charbon lignite, qui est la pire forme de charbon possible, et un désastre du point de vue écologique. Bon, donc, il y a eu des milliers de jeunes écologistes qui se sont mobilisés pour essayer d'empêcher cela. Et le gouvernement leur a donné une réponse très intéressante du point de vue théorique. La police qui est venue à coup de matraque les éloigner. Bien. Voilà. C'est dommage. Mais imaginons qu'un jour, une partie de l'Église, je ne dirais pas toute l'Église en Allemagne, mais une partie de l'Église en Allemagne et des chrétiens se joignent aux jeunes écologistes pour essayer de bloquer, par exemple, une mine de ce type, c'est formidable. Ce n'est pas impossible. Hein? Ça peut arriver. Hein? Mais il faut y penser, il faut prendre contact, il faut, bon, etc. Donc, voilà comment j'aimerais que on puisse avancer, mais je ne sais pas si ça va être possible.
Tu voulais ajouter quelque chose, Marine?
Non, mais j'aurais d'autres questions, mais peut-être au cours de la discussion, peut-être qu'on peut ouvrir la,
okay. Alors, je vais m'asseoir.
La discussion à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pierre, oui, vas-y.
Oui, je voulais savoir si via le réseau de, enfin, via cette, ce groupe de dialogue transversal là, est-ce que dans certains pays européens, il y a des jeunes qui s'organisent un petit peu, des jeunes cathos, notamment des jeunes chrétiens? Parce que nous on s'organise ici en France, mais c'est vrai qu'on se dit tout le temps, on se demande est-ce qu'il y a d'autres chrétiens dans d'autres pays, parce qu'on n'a pas le temps de regarder. Est-ce qu'il y en a, je sais pas, je sais qu'il y en a un peu en Allemagne, mais... en Italie ou est-ce qu'en Grèce il y a des groupes un peu comme ça, à votre connaissance, hein,
en fait, oui. Écoutez, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'initiative de ce type, ce qui est très dommage, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire, ça se passe beaucoup à un niveau institutionnel, hein, c'est-à-dire le Focolari, l'université Sofia de Focolari, le réseau Transforme, le parti de la gauche européenne, le Parlement européen, le Vatican, etc. Hein, ça se passe beaucoup à ce niveau-là. Il y a parfois des initiatives où participe la jeunesse, mais ces initiatives aussi, entre guillemets, institutionnelles. Comme je dis, ces journées catholiques de la jeunesse à Lisbonne, où on a invité les marxistes à venir. Hein. Donc, c'est intéressant. Mais ce n'est pas des groupes de jeunes qui ont pris l'initiative. Hein. Bon. La France, c'est un problème pour ces dialogues parce que je n'ai pas réussi, bon, à trouver ni des marxistes ni des catholiques pour participer à ce processus de dialogue européen. Hein. J'ai contacté plusieurs amis marxistes qui ont dit qu'ils étaient intéressés, mais de facto, ils n'ont pas vraiment, participé. Du côté catholique, j'ai moins de contacts, mais maintenant, avec vous, j'espère que... Hein? Bien. Donc, ce que je suggère, c'est, dans un premier moment, que certains d'entre vous s'inscrivent, disons, dans le processus qui s'appelle dialogue, hein, dialogue et ouverture. Hein? Que vous prenez contact, que vous écrivez à une de secrétaires. Bon, il y a... La secrétaire du côté catholique, c'est une dame très sympathique qui vit à Vienne, qui s'appelle Louise Assel. Vous pouvez écrire à Louise Assel. Voilà, nous sommes un groupe de catholiques français. Nous aimerions être mis en contact, participer du processus. Vous pouvez aller dans les sites, voir les publications, etc. Contribuer avec des écrits. Hein, bon. Sont mis dans les sites. Bon. Et éventuellement, à un moment ou à un autre, prendre des initiatives locales de dialogue. Pourquoi pas, hein? Je ne sais pas exactement qui avec qui. Hein? Mais éventuellement, avoir une journée en France, hein, des rencontres et dialogues entre marxistes et chrétiens, soit sur un sujet spécifique. L'écologie ou... Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée précise. Hein. Alors, on peut imaginer aussi des initiatives communes. J'avais pensé à une initiative commune, je pense que je l'ai dit à vous. C'était... vous savez que c'était au sujet du Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, c'est un gros morceau. Alors, les marxistes athées les plus purs et durs, ils ont envie de démolir le Sacré-Cœur. Hein. Bien. Mais moi non, je pense que c'est un très beau monument.
Merci.
Mais, bon, le monument est dédié aux prêtres qui furent tués par certains communards au moment de le Versaillais en Vaïtale, Paris. Bien. Alors, pourquoi pas prendre une initiative commune entre marxistes et chrétiens et aller proposer une plaque... Hein, sur l'église Sacré-Cœur, qui dit « Cette église devrait être dédiée à la mémoire de toutes les victimes de la semaine sanglante, que ce soit des prêtres catholiques, des combattants fédérés, tous ceux qui ont été fusillés, etc. » Pour être une idée. Ça a une façon de que le marxiste accepte, ça a été une erreur, et la vérité, c'est que un des principaux dirigeants de la commune, Eugène Varlin, quand il a vu ce qui s'est préparé par rapport aux prêtres, il est intervenu. Il a dit non, ça c'est pas notre politique. Vous ne devez pas faire ça. Et on l'a pas entendu. Donc, ça, c'était un sujet de conflit entre les communards. Donc, c'est symbolique. Hein, c'est symbolique, mais ça pourrait être une initiative commune entre marxistes et chrétiens.
Oui. Je vais essayer de formuler un peu clairement. Merci pour l'intervention, ça a eu beaucoup de pistes, on va dire. Je me pose beaucoup de questions, alors pour le coup, en tant que musulman, sur les questions propres au catholicisme. Et on se pose énormément la question suivante, en gros, dans quelle mesure on peut dire que le dogme ou les croyances, peut-être, je ne sais pas comment le dire, on va dire sont un obstacle à la conscience de classe ou à minima à la prise de conscience des questions de justice sociale, je ne sais pas comment, de manière large. Parce que j'ai l'impression que les trajectoires individuelles vont jouer beaucoup. Et si je prends par exemple un cas qui est un Colombien, qui est Camilo Torres, ou même Elder Camara, un tas de cas individuels, on pourrait même prendre l'abbé Pierre, en fait, plus proche de chez nous, mais c'est toujours difficile de juger des déterminations. Parce que la question de l'opium du peuple, je suis pas très bon marxiste, on va dire, mais quand même, si on s'adresse à des sociologues, effectivement, le faire des jeux, la question de la religion, c'est quand même un gros morceau, en termes d'obstacles à la conscience de classe. Et donc, ma question va peut-être la suivante. Voilà, dans quelle mesure ici, c'est pas juste des trajectoires individuelles. Et dans quelle mesure, alors je ne sais pas, là je parle plutôt sociologue pour le coup, qui a étudié en partie le fait religieux en dialogue avec le marxisme, mais dans quelle mesure ça va être un des obstacles. Nous, par exemple, dans la communauté musulmane, on se pose énormément de questions sur les représentations et les questions même du credo, les croyances fondamentales, ce qu'elles induisent en termes épistémologiques. Sur une vision politique du monde. Voilà.
Oui.
Et on va dire que en second questionnement, vu que vous êtes d'origine brésilienne, le catholicisme, on dit souvent que le catholicisme porte en lui les questions de justice sociale, je vais employer encore un gros mot, de manière ontologique, en gros, qui porte en lui des ferments de questionnement social, on va dire, d'égalitarisme, etc. On fait souvent l'opposition avec le protestantisme en particulier. Mmh. Il y a quelques années au Brésil, il semblait y avoir beaucoup de catholiques dans le mouvement social, ce qui est encore le cas en fait. Mais il y a tout un mouvement, notamment évangélique. L'idée, c'est pas de taper sur l'évangélisme ou sur le protestantisme en particulier, c'est pas le rôle. Mais par contre, si effectivement le catholicisme porte en lui un tropisme social, il y a tout un intérêt effectivement à caractériser dans quelle mesure, et je sais plus ce que je voulais dire. Et pour le coup, l'exemple brésilien il est parlant, parce que là récemment, est-ce que ça change par exemple sociologiquement le vote? Est-ce que ça change à ce moment-là, on peut aborder la chose qui n'est pas juste par le prisme de l'individu. Effectivement, on peut dire que le fait que les idées catholiques, que le catholicisme soit présent, modifie le corps social, ce qui n'est pas hyper marxiste, hein. Pour le coup ça se fait de l'idéalisme à l'envers, mais voilà, c'est intéressant, je me rappelle.
Écoutez, on ne peut pas dire que la religion en tant que telle est un obstacle à la lutte de classe. Certaines formes de religion sont un obstacle. D'autres formes de religion sont favorables à une conscience sociale, critique, émancipatrice, etc. Donc il faut analyser. Et ça, dans chaque confession religieuse, à l'intérieur du catholicisme, il y a eu et il y a encore de forces ultra conservatrices, régressives, antisociales. On peut continuer les adjectifs. Et il y a d'autres, comme on a vu, qui ont fait les choix de l'option avec les pauvres, qui ont sacrifié leur vie, parfois, dans les luttes d'émancipation des opprimés, etc. Bon, donc, il n'y a pas la religion en particulier, il n'y a même pas le catholicisme en général, il y a des formes spécifiques qu'il faut analyser. Bon. Maintenant, pourquoi le catholicisme a pris ses tournants en Amérique latine, c'est une autre histoire. Je ne veux pas développer maintenant tous les tenants et aboutissants, mais enfin, ça a à voir, à mon avis, hein, c'est mon hypothèse, ça a à voir avec l'élection de Jean XXIII, qui était le signe d'un changement très profond dans l'Église, et la révolution cubaine en 1959, qui était le début d'un changement dans l'histoire de l'Amérique latine. La convergence de ces deux processus, qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, a créé une espèce d'étincelle qui a fait qu'une partie importante de la jeunesse chrétienne, pour commencer, a pris ce chemin de radicalisation sociale. Bien. Maintenant, du côté protestant aussi, il y a une diversité. Il y a le protestantisme historique, le méthodiste, le luthérien, etc., etc., qui... où s'est développé aussi un courant de libérationniste. Il y a une théologie protestante de la libération aussi. Bon, pas toutes ces églises, mais un secteur significatif. Mais malheureusement, c'est qu'il s'est beaucoup développé dernièrement au Brésil, mais pas seulement au Brésil. C'est une forme particulière de protestantisme qui est, sont les églises évangéliques néo-pentecostales qui sont particulièrement rétrogrades. Bon, je ne vais pas développer, c'est une longue histoire. Je ne suis pas non plus un spécialiste dans le protestantisme réactionnaire, ce n'est pas mon terrain, mais bon, il existe, il y a eu des conséquences néfastes au Brésil. Bien. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la religion en général, ou du christianisme en général, ou même du protestantisme en général. Il faut toujours voir quel courant, les personnes, les réseaux, etc., les églises, bon, qui sont très différentes entre elles.
Alors, tout d'abord, je voudrais remercier le Dorothy et les organisateurs pour cette superbe rencontre. Je voulais vous remercier pour votre intervention. Et je voulais aussi vous remercier pour m'avoir fait comprendre par vos articles lors de mon mémoire la philosophie de Georges Lukács, qui m'a permis d'avoir une bonne note. Je voulais vous remercier. J'aimerais au fait rebondir sur ce que vous avez dit, ce qui s'est passé en Allemagne, avec notamment cette manifestation d'Allemands par rapport au fait à une centrale et la réponse policière derrière, qui fait naturellement en fait écho à la parenthèse qu'on a pu connaître en France depuis février, avec une répression policière qui est assez forte. Et en tel cas, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il semble qu'il y ait une certaine convergence entre dans la société que l'on veut avoir entre le marxisme et le christianisme, si jamais j'ai bien compris. Malgré tout, il me semble qu'il y a une divergence sur la méthode de fait entre le christianisme et le marxisme pour atteindre cette société. Et j'entends par là, en fait, en gros, la violence politique. Donc, du coup, alors, ma question est-ce que, au fait, il existe, au fait, en gros, cette divergence-là entre le marxisme et le christianisme au niveau de la violence politique. Est-ce que dans le christianisme, est-ce qu'il y a une convergence entre les deux sur la violence politique à avoir?
Vous parlez de l'Europe ou en général?
En général.
Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas parler en général. En Amérique latine, les chrétiens et les marxistes ont agi en commun, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de désaccord sur la méthode. Disons, les chrétiens qui ont fait le choix du christianisme de la libération, ils ne voulaient pas construire des syndicats chrétiens, de partis chrétiens. Ils voulaient participer avec tous les autres dans des mouvements émancipateurs, qu'ils soient politiques, sociaux, etc. Donc, on voit dans le syndicat, dans le mouvement paysan, dans le mouvement politique, dans le parti politique, etc., les chrétiens et les marxistes, et surtout beaucoup de gens qui se disent marxistes-chrétiens ou chrétiens-marxistes. Donc, il n'y a pas de... Disons, ce n'est pas deux groupes qui ont de stratégies ou de méthodes différentes, mais ce sont des gens qui sont ensemble. Et bon, à tel ou tel moment, il se peut qu'un chrétien réagit d'une façon un peu différente de ce que fait un marxiste non-croyant, etc., ou vice-versa. Mais pour l'essentiel, disons, il n'y a pas, cette séparation en deux blocs qui ont des orientations différentes. Bon, en Europe, ce n'est pas la même conjoncture, évidemment. C'est évidemment pas la même conjoncture. Mais on pourrait imaginer, c'est pour ça que je dis, on pourrait imaginer des initiatives communes. Bon, il y en a déjà. Ça ne se pose pas en termes marxiste-chrétien, mais par exemple, le mouvement actuel, je dis actuel parce que je pense qu'il n'est pas fini, contre la réforme des retraites de Macron, on a vu des marxistes, que ce soit dans la CGT ou d'autres, au syndicat sud, etc., des chrétiens dans la CFDT, je ne sais pas s'il y en a beaucoup encore, mais il y en a à avoir, et la CFTC, qui est un syndicat chrétien. Bon, et ils étaient ensemble. Bon, ils pouvaient avoir des accords tactiques ou le mot d'ordre peut-être n'était pas les mêmes, enfin, ils étaient ensemble dans le mouvement. Bien. Enfin, chacun dans son bloc, hein, chacun dans sa structure syndicale séparée. Mais on peut imaginer des initiatives communes. Je dis, on pourrait imaginer ça. Il n'y a pas d'obstacle dogmatique ou politico-moral, de principe pour ça. Voilà.
Pour prolonger ce que vous venez de dire, Laurent Berger et Sophie Binet sont issus de la jeunesse ouvrière chrétienne. L'un et l'autre. Je voudrais prolonger un autre propos que vous avez tenu pour témoigner d'une convergence dans l'ordre institutionnel et d'ordre politique. J'ai eu la chance de vivre de très près l'expérience de Spinelli au Parlement européen. De Spinelli, à Piero Spinelli, qui est le père d'un projet de traité bien antérieur à Maastricht et qui avait pour objet de mettre un peu de chair autour du squelette communautaire. Et Spinelli était d'origine marxiste dans le pré-fascisme.
Dans
le pré-fascisme italien.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Et c'était un très grand lecteur de Marx, d'Engels et de Lassalle. Il a pratiquement tout lu. dans ses mémoires, la principale référence qu'il donne, c'est Saint-Paul. Mmh. Donc, ce qui veut dire que en lui-même, il a connu cette tension. Et il disait que, puisqu'il était inscrit au groupe communiste italien, il était issu du parti communiste d'avant la guerre, et il disait très, très clairement que sans la convergence entre un petit noyau de communistes italiens et de ce qu'on appelait encore à l'époque, dans les années 80, l'aile gauche de la démocratie chrétienne allemande, c'est-à-dire ceux qui étaient les héritiers du socialisme chrétien de l'après-guerre, de l'immédiate après-guerre, les inspirateurs du programme d'Allen, premier programme qui a été à l'origine de l'Union démocrate chrétienne, Spinelli disait, sans cette convergence-là, jamais le traité n'aurait été adopté. Et je crois que c'est intéressant de voir qu'il y a eu cette chose-là. Et puis personnellement, je suis familier du dialogue entre catholiques et marxistes. Je suis marxien moi-même, et mon voisin de gauche ici, un catholique fervent, et nous dialoguons très fréquemment.
Alors, j'ai une petite note en bas de page par rapport à ce que vous venez de dire. Les marxistes et les chrétiens ont voulu présenter au Parlement européen leur déclaration commune. Et alors, on leur demandait où est-ce que vous voulez, dans quel lieu du Parlement européen, dans quelle salle du Parlement européen vous voulez les faire. Ils ont dit l'amphithéâtre Spinelli. Voilà, c'est donc là qu'ils ont présenté la déclaration commune.
Bonsoir. Alors, moi je suis complètement naïve sur le sujet, donc j'ai l'impression que tout le monde est hyper renseigné. Ma question est un peu rédhibitoire, désolée. Mais pourquoi est-ce que. C'est pour ça que je suis venue d'ailleurs, pour prendre un peu le sujet. Et pour. Est-ce que le catholicisme a plus de liens communs ou plus à faire avec le marxisme qu'avec le socialisme ou le communisme? Enfin, pourquoi plus le marxisme que les autres?
Oui. Alors, pourquoi on a dit marxisme et pas communisme? Bon. Pour plusieurs raisons. Premièrement, les partis qui constituent la gauche européenne, les partis de la gauche européenne, certains sont communistes, certains se disent socialistes et certains sont de gauche radicale, mais ni communiste ni socialiste, hein, comme le bloc de gauche au Portugal, hein, où il y a différents courants issus du trotskisme, du maoïsme, même de l'anarchisme, etc. Bon. Donc, ça c'est la diversité politique du parti de la gauche européenne au niveau politique. Et Mais surtout, comme l'initiative est venue du réseau Transform, qui est un réseau culturel, disons, les centres culturels de la gauche européenne, la référence culturelle commune, c'est le marxisme pour le réseau Transform. D'ailleurs, le mot Transform, c'est une référence à la 11e thèse sur Feuerbach de Marx. Marx disait, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, or, il s'agit de les transformer. Donc, marxistes européens ont pris cette phrase et ils ont appelé le réseau Transform. C'est en référence à Marx. Donc, disons, la culture commune à ces différents centres de recherche, c'est le marxisme. Et évidemment, chacun interprète de sa façon, etc. Donc, c'est normal que le dialogue s'est fait sous l'égide a pris la forme d'un dialogue entre chrétiens ou catholiques et marxistes, et pas chrétiens, socialistes ou communistes ou trotskistes ou autre chose.
Alors, je connais assez peu la situation religieuse en Amérique du Sud, mais l'impression que j'en ai, c'est, vous avez dit surtout, c'est qu'il y a une société qui est quand même beaucoup plus religieuse de manière générale, là où en Europe, en tout cas en France, parce que je connais, le fait religieux est quand même beaucoup moins fort. J'ai l'impression, dans ce que vous décrivez, quand vous parlez d'un seul bloc en Amérique du Sud face à deux blocs en Europe, c'est un peu ce que vous disiez sur l'histoire de la base ou du sommet, d'où vient le changement, mais qu'en fait, c'est entre guillemets simplement des gens qui étaient chrétiens, mais qui, parce que tout le monde l'est, en fait, du coup, sont de gauche ou pas, mais à quel point en Europe ou en France, en particulier, ça pourrait exister, dans le sens où, en fait, ce que vous décrivez, c'est juste des cohabitations d'intérêts sur des points précis, mais à quel point ça peut amener à réellement un nouveau mouvement ou à une nouvelle pensée, dans le sens où est-ce qu'il y a assez de chrétiens ou assez de marxistes pour vraiment créer un nouveau bloc?
Non. À nouveau, je dis, essayons pas d'imiter le modèle latino-américain parce qu'il obéit à des circonstances qui sont très différentes. Pour commencer, comme vous avez bien dit, que l'écrasante majorité de la population en Amérique latine est croyante. Chrétienne. Bon, il y a les catholiques, il y a les protestants, etc., les évangéliques, tout le monde, presque tout le monde est croyant. Bon. Donc, c'est une toute autre configuration. Et pour des raisons historiques, sociales, politiques, etc., la convergence a pris cette forme-là, propre à l'Amérique latine. Bien. Alors, en Europe, on ne peut pas imaginer ce modèle. Bon, et de toute façon, ce qui existe pour le moment, c'est quelque chose de bien plus modeste, c'est simplement un dialogue. Un dialogue entre culture, institutions, personnes de référence marxiste et de religion catholique. Hein. Bien. Cet dialogue a déjà donné des fruits, hein. Il n'est pas simplement un échange de mots, il y a eu certaines initiatives communes, une déclaration commune, etc., etc. Je ne sais pas où ça peut aller, je ne peux pas prévoir. Hein. Comme j'ai dit, j'aimerais bien qu'à un moment ou un autre, ça débouche sur des initiatives communes, mais ça ne dépend pas de moi, hein, ça dépend d'instances beaucoup plus institutionnelles. Donc, bon. Et je pense que c'est déjà un grand pas en avant par rapport à ce qui existait avant, où les deux blocs se regardaient. Bon, il y avait des individus ici ou là qui dialoguaient, mais les institutions étaient en chien de faïence, hein, se regardaient mutuellement avec hostilité. Maintenant, il y a eu un déblocage, il y a un dialogue qui a donné des expressions concrètes, écrites. Bon, peut-être on pourra. Il y a des initiatives communes comme l'université d'été. Je pense qu'on est entré dans un processus qui est inédit. C'est inédit en Europe, en tout cas. Et qui pourra peut-être conduire plus loin. Mais ça va dépendre aussi de nous tous, hein, de vous, de moi. Voilà.
Moi, j'ai une question sur toujours sous l'alliance marxisme et chrétien, mais plus sur quel marxiste était particulièrement engagé dans cette alliance. Oui. Si, par exemple, vous avez parlé qu'il y a eu un renouveau dans l'alliance quand des courants marxistes ont rejeté le stalinisme avec ce courant autoritaire. Donc, ça m'étonnerait, mais est-ce qu'il y avait un engagement particulier avec des courants du marxisme proche de la quatrième internationale ou des courants plus réformistes? Et comment du coup ça a pu modeler le dialogue, enfin même à niveau international, de la base ou plutôt...
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais disons, quel marxisme? Il y a une très grande diversité de marxisme dans le parti politique de la gauche européenne et dans les réseaux culturels. Hein? Bon, tout le monde se réclame de Marx, mais bon, il y a des interprétations. Ce qui n'est plus, qui n'a plus cité dans la pensée, la réflexion marxiste prédominante dans ces centres, c'est le vieux marxisme-léninisme-stalinisme. Hein? Bon, de Moscou, ça, disons, c'est plus ou moins disparu. Ça existe encore dans certains partis communistes.
Hein? En Grèce, notamment.
En Grèce, par exemple. Hein? Mais ils ne font pas partie, ils n'ont pas adhéré au parti de la gauche européenne, justement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Hein? Donc, ils restent pour le moment en dehors. Bien, mais à part, disons, cet accord de dépasser ce qui a été quand même prédominant pendant toute une bonne partie du XXe siècle, comme marxisme, bon, à part ça, il y a une très grande diversité. Bon, personnellement, ça m'est réjoui beaucoup que la fondation culturelle de la gauche en Allemagne s'appelle Fondation Rosa Luxembourg. Parce que pour moi, toujours, je me suis toujours inspiré dans le marxisme de Rosa Luxembourg depuis mon adolescence. Donc, ça m'est réjoui beaucoup que pour la Fondation Rosa Luxembourg, qui est peut-être la plus importante de ces différentes fondations européennes, sa référence est Rosa Luxembourg. Bien. Mais d'autres ont d'autres références. Bon, c'est divers, c'est pluriel. Voilà.
Tout à l'heure, vous avez cité le romantisme révolutionnaire.
C'est pas moi, c'est mon ami.
Et pourtant, vous avez des écrits là-dessus.
J'ai des écrits là-dessus, c'est vrai.
Alors, je voudrais savoir si ça a été conceptualisé, s'il y a, si ça n'est pas compris comme un dépassement du marxisme, de la théologie, de la libération confondue, parce qu'il semble qu'il y ait vous avez parlé de ressources multiples, des sociétés traditionnelles, etc. Et est-ce qu'il existe une bibliographie sur ce sujet? Et est-ce que ça vous paraît source d'avenir?
Source
d'avenir, si c'est porteur de promesses, ouais. L'avenir compte tenu des différentes crises que nous connaissons.
Bon, c'est une longue histoire. Hein? C'est un sujet pour
une autre conférence.
Enfin, en deux mots. Hein, en deux mots. Effectivement, je travaille depuis pas mal d'années sur le romantisme avec un ami, Robert Serre. Et nous sommes arrivés très vite à la conclusion que le romantisme, c'est pas seulement une école littéraire du 19e siècle. C'est quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus profond. C'est une vision du monde qui s'est traduite dans la littérature, dans les arts, dans les sciences humaines, dans l'anthropologie, même dans l'économie politique. Alors, quand je dis ça, les gens disent « Comment ? Romantisme, économie ?» Ben oui. Et pour ceux qui ne me croient pas, je cite toujours un texte de Lénine qui s'appelle « Contre le romantisme en économie ». Voilà, donc il existe le romantisme en économie. Donc, c'est une vision du monde. Alors, quel est le noyau, disons, de cette vision du monde? Alors, notre hypothèse, évidemment discutable, c'est que le romantisme, c'est une critique, une protestation culturelle contre la civilisation capitaliste industrielle moderne au nom de valeurs pré-modernes ou pré-capitalistes, au nom des références du passé pré-moderne ou pré-capitaliste. Et donc, évidemment, le romantisme est très hétérogène politiquement. il y a, disons, fondamentalement deux courants, bon, il y a plus, mais disons, pour simplifier, un courant qui, à partir de cette nostalgie du passé, voudrait qu'on revienne au passé, qu'on restaure le passé, qu'on, qu'on retourne à ce qui était, c'était plus humaine ou plus chrétienne ou plus noble, ou, peu importe, hein, du passé. D'autres, que j'appelle romantiques révolutionnaires, ils ont une forme de pensée plus différente. Pour ce qu'ils prônent, c'est pas un retour au passé, mais un détour par le passé vers un avenir utopique. Je cite toujours quelqu'un qui est, pour, à mes yeux, le fondateur du romantisme révolutionnaire. Il s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Alors, Jean-Jacques Rousseau, notamment dans les origines de l'inégalité parmi les hommes, qui, à mon avis, c'est le manifeste inaugural du romantisme révolutionnaire. Et il fait une critique féroce de la civilisation moderne. Bon, et il admire ce qu'il appelle les Caraïbes, c'est-à-dire les indigènes des Amériques, qui sont libres. Ils vivent libres, n'acceptent pas le joug que porte l'homme de la civilisation moderne, et qui est prêt à lutter jusqu'à la mort pour défendre sa liberté. Tout ça, c'est chez Rousseau. Bon. Alors, quand il a publié ça, Voltaire lui a répondu en disant: cher ami, tu veux que nous revenions dans la forêt? Tu veux qu'on marche à quatre pattes en mangeant de l'herbe? Bon, évidemment, ce n'était pas ça qu'il voulait. Bon. Alors, dans les origines d'égalité, il ne développe pas beaucoup, mais enfin, il laisse entendre que une façon de retrouver la liberté et l'égalité, parce que pour lui, c'est ça aussi l'essentiel, la liberté et l'égalité que nous avons perdues avec la civilisation moderne, c'est la démocratie. Voilà, une idée. L'utopie à l'époque, c'était une utopie existentielle, une utopie révolutionnaire. Donc voilà ce qu'est le romantisme révolutionnaire, qui va ensuite avoir multiples formes au cours du 19e, du 20e et du 21e siècle. Bon, parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Bien. Maintenant, ça n'est de. Je ne pense pas que le romantisme révolutionnaire ou a vocation à remplacer le marxisme ou le christianisme. C'est pas ça. À l'intérieur, aussi bien du marxisme que du christianisme, il y a des courants romantiques. Certains courants, mais pas tous. Hein, pas tous les marxistes sont romantiques, loin de là. C'est la même chose pour les chrétiens. Bien. Voilà. Donc, c'est ça en deux mots. Et je pense que ça, c'est actuel parce que je pense, par exemple, au mouvement écologique en Amérique latine. Bon, mouvement écologique en Amérique latine, sa grande référence sont les indigènes. Pas seulement en Amérique latine, aussi en Amérique du Nord et au Canada. Pour beaucoup d'écologistes, ils ont une grande admiration pour les indigènes, d'une part parce qu'ils sont à l'avant-garde de la lutte pour défendre les eaux, les forêts, etc., contre la destruction civilisés, bon, et parce qu'ils ont un mode de vie et une culture, une spiritualité de respect profond pour la mère terre, pour la nature. Donc, il ne s'agit pas, donc les écologistes ne proposent pas de revenir à vivre dans la forêt comme les Indiens, mais ils disent, apprenons avec les indigènes cette attitude de respect envers la nature. Sans ça, nous ne pourrons pas sauver notre maison commune. Donc ça, c'est une écologie romantique, je dirais, révolutionnaire en perspective.
Eh bien, je pense que c'est une très bonne ouverture pour une éventuelle prochaine conférence. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été présent. On peut continuer les discussions autour d'une bière ou de ce que vous voulez, et on va rester ouvert un petit moment.
Merci. Vous restez avec nous pour un verre. Pardon ? Vous restez un peu avec nous pour en faire.
Un peu. Pas longtemps, pas plus tard.